Nos questions avec Léa Salamé, les vôtres au 01 45 24 7000. Bonjour Philippe, bienvenue sur Inter.
Bonjour. Les plans de départ volontaires ont toujours existé dans le cadre des PSE et jusqu'à présent les accords majoritaires d'entreprise qui en découlaient étaient vérifiés par la directe. Il y a en 2014, une grande entreprise pharmaceutique française a mis en place tout un plan de départ volontaire qui était annulé par le Conseil d'État. Mais l'entreprise a quand même continué. C'est-à-dire, quel va être le contrôle maintenant, alors que les plans de départ volontaires vont être facilités juridiquement?
Merci Philippe pour cette question. J'ajoute juste Alexis Corbière qu'il y en a beaucoup sur le même thème, notamment sur Twitter, avec juste deux demandes vous concernant strictement, qu'on soit d'accord ou non avec la mesure au mètre, comme semble faire votre invité, que la rupture conventionnelle doit être signée par les deux parties. N'est-ce pas mensonger? Rappelons quand même que l'accord des syndicats, ça c'est ce que disait Aldric, Olivier, que l'accord des syndicats et le volontariat au départ des salariés sont la base de la rupture conventionnelle, etc. etc. Il y en a énormément, je voulais lire Alexis Corbière.
Non mais je l'ai dit tout à l'heure, oui. Maintenant, est-ce que le rapport de force syndicale dans des boîtes souvent, ou d'ailleurs la vie syndicale n'est pas toujours facile, est suffisant pour qu'on s'en remette uniquement à ça? Voilà. Et puis deuxièmement, il existait d'ores et déjà des dispositifs, je crois que c'est Philippe qui l'a évoqué, on pouvait licencier dans ce pays, les ordonnances vont licencier plus facilement et donner moins d'exigences vis-à-vis de l'employeur, qui aura moins d'exigences vis-à-vis de la formation, etc. Est-ce que ceux qui m'écoutent trouvent que cela est bien?
C'est volontaire, c'est ça ce qu'on vous demande d'admettre.
Mais c'est quoi qui est volontaire?
La procédure en elle-même, le départ.
Non, mais attendez.
C'est un plan de départ volontaire collectif.
Oui, enfin, je veux dire, qui est soumis dans un pays où, je répète, il y a 6 millions de chômeurs, où il y a une menace peut-être à plus de licenciements, et qui est volontaire, qui passera avec un accord de la part des représentants syndicaux,
50%.
Des représentants des salariés. D'accord, donc je répète mon argument. Est-ce que vous pensez, ceux qui nous écoutent, que dans nombre d'entreprises, tout ça, du point de vue de l'expression de l'intérêt général, doit être uniquement laissé à l'appréciation, souvent, de représentants de salariés qui peuvent subir aussi des pressions avec la menace qu'il y ait plus de licenciements demain? Voilà, bon, est-ce que l'intérêt général doit totalement s'estomper? Et je répète, d'un point de vue aussi plus collectif, qu'est-ce que c'est qu'on gagne à ce que, notamment jusque-là, ça n'était pas possible, lorsque vous licenciez des gens, vous ne pouviez pas les réembaucher par la suite, certains d'entre eux, sur un statut différent. Ceux qui m'écoutent, si vous travaillez dans telle ou telle entreprise, que vous avez actuellement un contrat à durée indéterminée, accepteriez-vous d'être licencié et demain réembauché sur un statut plus précaire? Pourtant, ce sera rendu possible. Voilà, donc ça ne va pas dans le bon sens selon moi.
Joe, bonjour, bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour et bonne année à France Inter.
Merci.
Alors, je pose une question toute simple. Est-ce que France Insoumise, qui dans les médias existe d'abord dans la provocation et un discours à la limite de l'éruption, voire ce matin, va poursuivre dans cette posture, une posture qui semble bien convenir à M. Macron? Et je voudrais préciser par une remarque que j'ai voté Mélenchon plusieurs fois, mais il s'est déconsidéré à mes yeux au deuxième tour, et là c'est définitif. Voilà.
Merci pour cette question, Joe. Alexis Corbière.
Que répondre? Joe, je vous souhaite une bonne année. Je suis désolé de vous avoir dérangé ce matin par mes éructations.
Sur le ton, la manière brutale de s'opposer, vous l'entendez ou pas?
Il y a plusieurs choses. Premièrement, si j'ai dérangé Joe en buvant son café, je suis désolé, c'est mon style à moi. Peut-être que j'aurais dû parler moins fort, moins près du micro, etc. Mais je vous demande pas d'ailleurs de passer des vacances avec moi, avec Mélenchon. Hein. Vous savez, vous avez le droit de pas nous apprécier sur le plan personnel, mais restez sur le terrain des idées. Voilà, je dis à Joe, est-ce que...
Mais il y a des formes d'opposition, il y a des
décibels,
il y a des mots...
Mais peut-être, moi j'assume le fait qu'il y a des moments...
D'être trop intelligent pour pas réfléchir à
non,
tout
non,
ça.
Non, mais
quand
j'entends
même.
Bien. Et c'est volontairement parfois que j'utilise, moi ou d'autres de mes amis, ce que je vais appeler une provocation. Par exemple,
dégagez-les tous.
Cet été, ou même, on va aller plus simplement, cet été, j'ai assumé le fait, et le président de Rugy me l'a reproché, qu'à l'Assemblée nationale, j'ai montré ce que représente 5 euros, en ayant fait des courses à un Leader Price à côté, pour montrer que, voilà, et c'est une provocation, on ne doit pas le faire, etc. On peut trouver qu'il y a un côté un peu mise en scène, je l'assume. Mais à un moment donné, on est dans une société où l'image, la forme et le fait qu'il y a peut-être des portes parfois qu'il faut ouvrir à coups de pied par un vocabulaire un peu cru est une chose. Ceci dit, la qualité de la campagne Mélenchon en 2017, c'est parce que c'était une grande campagne de pédagogie politique. Et c'est ça que j'invite Joe ou d'autres à aller voir. Vous n'aimez pas le son de ma voix, j'en suis désolé, allez lire ce que nous racontons. Et si vous n'êtes pas d'accord, après je peux entendre. Mais de grâce, allons au-delà de cette psychologisation des choses. Moi, monsieur, je n'éructe pas, je m'exprime peut-être avec passion, et on a tous nos qualités, nos défauts. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut face à ce qu'est aujourd'hui Emmanuel Macron, le nouveau visage d'un libéralisme dur qui veut remettre en cause toute une série de règles, on va bien sur le code du travail ou autre chose. Il faut au contraire la pensée des lumières, de l'intelligence, du partage. Et c'est vers ça que l'avenir sera meilleur si on prend cette voie.
Léa Salamé.
Question concrète, Alexis Corbière. Le gouvernement envisage de réduire de 90 à 80 km/h la vitesse sur les routes secondaires. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre?
Oui, c'est le genre de sujet, je crois. Moi, j'en reste aussi. Nombre d'experts considèrent que ça limitera les accidents, qu'il sera, il y aura aussi des économies qui pourront être faites et tout. Je m'oppose pas à ça. Je pense que...
Parce que le Front National va lancer une pétition contre en estimant que le gouvernement cherche à se donner bonne conscience par des mesures qui vont encore impacter les classes moyennes qui vivent au-delà du périphérique, c'est-à-dire dans les zones rurales.
Non, c'est faible de prendre le débat comme ça. Après, qu'il faille des moyens sur la prévention des accidents, etc. Tout à l'heure, j'ai écouté le débat sur... aussi les radars, etc. On peut s'interroger parfois sur la manière dont ils sont disposés, où ils sont là pour flasher et faire du chiffre, et ça peut être agaçant, etc. On peut s'interroger aussi, on n'a pas parlé à la SNCF, de quelle manière nombre de voies, notamment en province, ont été laissées un peu à l'abandon. On est quasiment obligé de parfois de prendre sa voiture pour aller travailler, etc. Bon, et je peux comprendre que beaucoup de gens ne veulent pas être des vaches à lait uniquement et qu'on ne prend pas sa voiture uniquement par plaisir et qu'il ne faut pas tondre l'automobiliste. Ceci dit, tout ce qui va dans le sens, je ne suis pas un spécialiste, mais tout ce qui va dans le sens de mettre et d'essayer d'aller vers moins d'accidents, de rendre les routes moins accidentées, et va plutôt, selon moi, dans la bonne direction.
Allez, on retourne au standard. Firas, bonjour.
Bonjour et merci de prendre ma question.
Je vous en prie.
Je voulais juste savoir jusqu'à quand, en fait, la France Insoumise, et notamment M. Mélenchon, va continuer à véhiculer les théories complotistes du Kremlin concernant les questions internationales. Moi, je pense à la Syrie, je suis syrien, il faut le savoir. Voilà, quand il parle de guerre du gaz, je voulais juste vous dire que mon père est réfugié aujourd'hui en France parce qu'en 2011-2012, professeur à l'université, il disait que la répression féroce va nous amener à la guerre, que mon cousin est mort, en fait, sous la torture, et son père aussi sont morts sous la torture parce qu'il a fait défection, qu'il refusait de tirer sur des manifestants. Oui, il s'appelle Alaa Nizar Kontar, le cousin et le père, et que, dernier point, je fais partie des minorités syriennes que le régime prétend défendre. Donc jusqu'à quand M. Mélenchon va nous parler de guerre de gazoduc et qu'il va excuser le fait que le régime torture massivement dans les geôles et viole massivement femmes et enfants de manière systématique en nous expliquant que la guerre c'est sale, qu'il bombarde tous les hôpitaux, toutes les maternités, toutes les écoles en nous expliquant que la guerre c'est sale et lui trouver des excuses à ce génocidaire, jusqu'à quand il va porter le drapeau du Kremlin et trouver que l'action de Poutine est bonne et que l'impérialisme américain tue en Syrie.
Merci Firas pour cette question. Alexis Corbière.
Mais il y a une telle passion, et je peux comprendre dans ce qu'il nous dit Firas, c'est ça, que je ne veux pas polémiquer avec lui, mais je veux lui dire, si nous ne soutenons pas Bachar el-Assad, jamais la torture. Pardon, je le prends mal, je veux dire, c'est pas vrai, c'est faux. Deuxièmement, oui, il y a des intérêts géopolitiques, oui, la question du gaz n'était pas aussi secondaire en Syrie, mais vu le ton que prend l'échange, on va rester là. Bon, nous ne sommes pas les amis de Monsieur Poutine, nous ne sommes pas les amis, arrêtons là-dessus, écoutez, c'est une blague. Je vais faire référence, les mêmes qui nous font la leçon, dernièrement à l'Assemblée nationale, avant que la session s'arrête, vous savez que nous avons voté un partenariat d'accord renforcé avec le Kazakhstan. D'accord ? Le Kazakhstan, là-bas, il n'y a pas d'élection. Ça torture, en veux-tu, en voilà. Et les mêmes qui nous font la leçon, qui soi-disant nous traitent d'amis de tous les dictateurs, proposent que la France ait un accord renforcé avec le Kazakhstan. Par contre, dès qu'on dit qu'il faut arrêter de sortir, notamment de ce discours un peu parfois belligène vis-à-vis de la Russie, qu'il faudrait établir des relations, non pas s'aligner. Vous savez, moi, je voterais pas Poutine si j'étais un citoyen russe. Mais la Russie est un pays qui, avec lequel la France doit établir des relations autres que ce discours belliqueux venu directement parfois des États-Unis. J'observe que pendant la campagne présidentielle, il était de bon ton de taper sur Jean-Luc Mélenchon, mais que Monsieur Macron, sitôt élu, a reçu Vladimir Poutine. Discuter, il s'est pas aligné sur Poutine, il faut discuter. De la même façon que j'ai cru entendre que Monsieur Macron, enfin j'ai cru entendre, il est en Chine et il explique qu'il faut discuter avec la Chine. Ça veut pas dire que c'est notre modèle. Donc sortons de cette vision un peu binaire. Voilà. Et enfin, je redis au ce micro, nous ne sommes pas amis de tous les dictateurs. C'est faux. Arrêtez avec ça. Je ne comprends pas comment c'est une manière blessante.
Léa.
Voilà.
Léa.
Alexis Corbière, Gallimard annonce vouloir rééditer les pamphlets antisémites de Céline, accompagné par un appareil critique, accompagné par les explications d'historiens. Vous êtes contre, vous dites que c'est une bêtise et vous demandez à Gallimard de ne pas les publier. Pourquoi ?
Oui, alors premièrement, c'est une opinion que je défends, qui n'est pas nécessairement défendue par d'autres de mes amis. Je respecte le fait qu'on peut avoir sur cette affaire-là une opinion divergente. Je ne suis pas d'accord. Pour plein de raisons. Premièrement, je pense que si on fait ça, on affaiblit toute possibilité de sanctionner d'autres temps antisémites. Je vais citer des noms, Monsieur Soral ou Dieudonné, etc. Il n'y a pas l'antisémitisme des quartiers populaires. hein, qui doit être condamné, et l'antisémitisme mondain du Quartier Latin, devant lequel, parce qu'il y a trois points d'exclamation et trois points de suspension, on doit dire c'est fabuleux. Voilà. Céline, de son vivant, et d'ailleurs sa veuve ne voulait pas que cela soit réédité.
Mais aujourd'hui, sa veuve, semble-t-il, a changé d'avis.
Elle a 105 ans, et il y a un coup éditorial derrière, que je n'approuve pas, mais qui est une mode qui est en train de se mettre en place. On a réédité, rebatté dans sa totalité Les Décombres. Moi, j'avais Les Mémoires d'un fasciste, édité par Pauvert, c'était une sélection de certains textes. Et puis, demain, on va continuer. Pourquoi ne pas éditer La France juive d'Édouard Drumont? Vous savez, c'est un ouvrage qui peut être important aussi. Le protocole des sages de Sion. On me dira, oui, mais il y a un appareil critique.
C'est ça. D'où c'est-à-dire qu'on dit qu'on peut le trouver sur Internet. On peut trouver Massacre.
Mais continuons à le trouver sur Internet.
Sur
Attendez,
Internet,
Léa Salamé.
Sans appareil critique.
Je ne suis pas pour interdire les choses. Voilà. Moi, là où je suis gêné, je suis pas pour l'interdiction. Ouais. Si on cherche ce genre de texte, Bagatelle pour un massacre, on peut
le
les trouver
sur Internet.
Chez des bouquinistes sur Internet, c'est réédité. Par contre, pourquoi une grande maison d'édition doit apporter sa forme de caution, de banalisation, de généralisation de ces textes? Je ne suis pas d'accord. Où est-ce que ça va s'arrêter? J'ai Nicolas Demand face à moi. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai visité un musée qui s'appelle le Musée national d'histoire de l'immigration, dans lequel vous avez donné, je ne dis pas de bêtises, une collection de journaux antisémites s'appelait Psit, des dessins de Carandache. Et je vous remercie pour ce musée. Bon, est-ce qu'il faut rééditer tous les dessins antisémites de Carandache? Est-ce qu'il faut... Bon, je crois pas. Il y a des choses qui doivent rester dans une forme de zone un peu. Quand on s'intéresse au sujet, on peut aller le lire, mais pas le mettre en supermarché partout.
Je ne suis pas d'accord. Mein Kampf, que Fayard envisage.
Mais moi, j'étais pas d'accord. Vous le savez, j'étais pas d'accord. On doit pouvoir lire Mein Kampf, évidemment, pour les historiens et tout, mais quel intérêt il y a à le diffuser plus largement? C'est la question que je pose. Et je pense en plus qu'on va s'affaiblir. Parce que demain, puisque c'est édité, pourquoi pas monter un spectacle de théâtre où je vais lire Bagatelle pour un massacre et des hurlements antisémites dedans? Et pourquoi on l'interdira? Et puis, alors pourquoi alors on interdit Dieudonné quand il dit saloperies, notamment sur celui qui vous remplaçait avant, Patrick Cohen, dans lequel il a le droit de dire des horreurs? Et moi, j'ai soutenu le fait que
ce
spectacle-là.
Vous dites qu'il y a un snobisme intellectuel.
Ben oui,
en fait.
C'est-à-dire que parce que c'est Céline. Alors, ouais, bien sûr, je suis prof d'histoire et de français. Le Voyage au bout de la nuit ou d'autres ouvrages doivent être connus. Mais pourquoi aller chercher ça dans les poubelles de Céline? Et quel est l'intérêt? Où est ce goût morbide? Et puis, par ailleurs, c'est de la littérature de merde. Voilà, au bout d'un moment, faut le dire. Des glapissements antisémites. Non, je parle de ces textes-là. C'est une folie, un délire. Et Céline, en plus, a cette particularité. C'est une ordure qui va continuer à écrire dans des journaux de collaboration durant la guerre en appelant au meurtre contre les juifs. Pourquoi éditer tout ça? Enfin, je veux dire, bien sûr, il y aura l'appareil critique. À quoi ça nous sert?
Bon, juste moi, j'en suis la précision là, sur je dis aux... oui, ce que vous venez de dire. Non, mais j'ai absolument aucun problème.
Je veux dire par là qu'on peut avoir
ça.
Un intérêt pour des documents antisémites sans être un antisémite.
Quand j'étais jeune, il y a très longtemps maintenant, j'ai effectivement travaillé sur la caricature antisémite l'affaire Dreyfus. J'avais donc collectionné un certain nombre, la collection complète de ce journal antisémite et caricatural qui s'appelait le Psit. Et effectivement, j'ai fait le don de la totalité de la collection.
Et je vous en remercie.
Et d'autres journaux. Au musée de, qui est voilà, dorée, de l'histoire de l'immigration.
De voir cette collection de journaux antisémites, vous êtes parce qu'il n'en avait que des,
il n'en avait que des photocopies.
Non, pendant de vous avoir pris à partie. Parce
non, mais moi j'ai pas de problème avec ça.
Moi aussi, moi j'avais
mais cherché chez des pas l'antisémitisme lettré le petit doigt en l'air. Voilà, c'était juste pour ça que
on peut avoir un intérêt de recherche, etc., pour aller chercher chez des bouquinistes ce type de littérature, sans pour autant dire à une grande maison d'édition. Voilà. Donc je dis à Gallimard solennellement, moi je suis pas pour que ça passe devant les tribunaux. C'est un petit désaccord peut-être avec Serge Klarsfeld. Ne le faites pas. Voilà. Ne le faites pas. Vous avez une responsabilité quand on est éditeur, quand on est un média. Il y a des choses qu'on peut diffuser et d'autres qu'il ne faut pas diffuser plus largement. J'en suis là.